le magazine des Nations Unies.
Merci d'écouter Radio Okapi. La réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire en RDC qui s'est tenue à New York fait la une de cette semaine. Dans quelques instants, nous en saurons les conclusions officielles, mais aussi ce qui s'est dit dans les coulisses. Dans la rubrique décryptage d'aujourd'hui, nous allons décortiquer les concepts réinsertion économique des enfants issus des forces et groupes armés. Restez donc avec nous pour en savoir plus. Et puis nous irons au Maniema pour parler d'une journée d'études organisée par la FAO et le PNUD. Ce sera avec Rigobert Yumandouani.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à votre magazine du dimanche. Pour cette semaine, l'actualité nous vient de New York. Les participants à la réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire en RDC ont exprimé leur inquiétude quant à la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Par ailleurs, ils se sont engagés à aider la RDC dans ses efforts de restaurer la paix et la sécurité dans sa partie est. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre de New York le jeudi 27 septembre 2012, une rencontre à laquelle ont pris part notamment les présidents Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, ainsi que d'autres partenaires internationaux. Après 3h30 de discussion à huis clos, Hervé Latsou, secrétaire général adjoint en charge des opérations de la paix, a fait le résumé de cette réunion devant la presse. Ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Amazani de la radio de l'ONU à New York.
L'important maintenant, et toutes les délégations ont insisté là-dessus, c'est de se projeter vers l'avenir. De ce point de vue-là, il y a bien sûr des chantiers de fond, manifestés par l'engagement du gouvernement congolais à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de son pays, et donc pour cela à renforcer et accélérer la réforme du secteur de la sécurité. Mais il y a aussi les efforts des pays de la région, et d'abord de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui, vous le savez, dans le cadre de 3 sommets successifs, a formulé toute une série de propositions. Concrètement, le mécanisme conjoint de vérification qui est déjà en train de se déployer sur le terrain, et puis la force internationale neutre, un concept qui a besoin d'être encore approfondi. Les Nations Unies sont en appui pour aider à tous ces travaux. Nous avons des spécialistes que nous avons dépêchés sur le terrain. Voilà ce à quoi nous allons travailler avec maintenant ce soutien marqué que nous apportent tous les pays participants. Les participants qui ont exprimé leur entier soutien à tous les efforts de la MONUSCO pour mettre en œuvre son mandat dans l'est du Congo.
Notons qu'une source exprimant sous le sceau de l'anonymat a indiqué que les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame sont restés chacun campés sur sa position. Kabila a réitéré que son pays était victime d'ingérence extérieure sans jamais citer le Rwanda. Quant à Kagame, il a demandé que son pays, également mis en cause par l'ONU, ne soit pas le bouc émissaire de la crise en RDC avant de mettre en cause les autres pays voisins de la RDC. D'autre part, pour Human Rights Watch, le sommet a échoué à reconnaître clairement le problème principal qui est la poursuite du soutien militaire du Rwanda au M23. Dans un communiqué, l'ONG déclare, je cite, « Tant que le Rwanda continuera à soutenir la rébellion, les civils congolais supporteront les conséquences des combats, quel que soit le nombre de sommets que l'ONU tiendra. » Fin de citation.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En partenariat avec l'ONG Guichet d'économie locale du Sud Kivu, l'UNICEF et le BIT ont organisé du 17 au 20 septembre dernier à Bukavu un atelier sur la réintégration économique des enfants issus des forces et groupes armés. Réintégration économique, c'est donc ce concept que nous allons essayer de décortiquer ce dimanche. Et pour ce faire, Astrid Mujinga a approché à Bukavu l'un des organisateurs de cet atelier. Il s'agit de Franck Mayundo, partenaire du Bureau international du travail, BIT en sigle, suivant plutôt leur entretien.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Je m'appelle Franck Mayundo, je suis en fait le directeur de l'organisation Guichet d'économie locale du Sud Kivu, qui est en fait une structure qui travaille en partenariat avec le BIT.
Le BIT, justement, l'UNICEF et votre agence ont organisé la semaine passée à Bukavu un atelier sur la réintégration économique des enfants sortis des forces des groupes armés. Alors, quel a été l'objectif de cet atelier et qu'entendez-vous par réintégration économique?
Merci pour la question. C'est que l'objectif de cet atelier, comme le thème l'a bien indiqué en fait, c'est un atelier qui a eu lieu pendant 4 jours à Bukavu, du 17 au 20 septembre courant. Et l'atelier a été co-organisé par l'UNICEF, le BIT et le guichet d'économie locale du Sud Kivu que je représente. L'objectif, c'était juste de renforcer les capacités des agences d'exécution de l'UNICEF en matière de réintégration économique de ces enfants soldats, mais aussi les autres enfants vulnérables.
Jusque-là, on a toujours parlé de la réinsertion familiale et sociale. Est-ce que cela n'a pas donc suffi pour que ces enfants puissent sortir définitivement de ces groupes armés? Est-ce qu'il fallait encore la réinsertion économique?
Bonne question, et c'est ça la problématique en fait d'un plan d'action qu'on est en train d'exécuter ensemble. C'est que depuis 2 années, l'UNICEF ne cesse d'appuyer 2 agences d'exécution au niveau de notre pays en général et au Sud Kivu en particulier, ou la partie Est en particulier. Et là, il s'agissait plus de cette réinsertion sociale. Et là, et donc, c'est plus le retour de l'enfant dans une famille, chez ses parents ou dans une famille d'accueil. Mais on s'est rendu compte qu'après la réinsertion sociale, l'enfant avait encore d'autres préoccupations pour vivre correctement dans la société. Et puis, même s'il est enfant, mais il ne restera pas enfant, à un certain moment, il devient adulte. Et quand il devient adulte, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de rentrer encore à l'école deviennent encore plus dangereux qu'avant. Et donc là, on a pensé qu'il faut maintenant une réintégration économique. C'est-à-dire, il faut penser à un type d'activité économique que cet enfant appelé à devenir jeune pourra exercer afin de gagner sa vie. Et donc, c'est en fait ça, la réintégration économique. Dans le cadre de la préparation, on voit l'analyse du contexte pour voir dans quel contexte cet enfant est appelé à évoluer. On regarde également quelles sont les potentialités qu'il y a dans le milieu où l'enfant est appelé à évoluer. Et sur cette base-là, on arrive à déterminer un projet, une idée projet de l'enfant. C'est l'enfant lui-même qui détermine son idée projet par rapport aux potentialités, aux réalités du milieu dans lequel il se retrouve. Et par rapport à cette définition de son idée projet, on arrive à définir tout un paquet de formations. Il y a un paquet qui concerne la formation professionnelle, un paquet qui concerne l'éducation à la vie, et il y a un autre paquet qui concerne la formation en entrepreneuriat. Et donc, si ce paquet est accompli, alors on passe à l'étape du montage du business plan, le plan d'affaires. Et donc, c'est le plan d'affaires qui va déterminer qu'est-ce que l'enfant a besoin pour démarrer une activité. Bien entendu, on tient compte de l'âge également. Dans notre pays, est adulte la personne qui a au moins 18 ans. Et donc, si l'enfant a moins de 18 ans, là, on doit d'abord lui faire ce qu'on appelle l'apprentissage professionnel. Et par rapport à la législation congolaise, à partir de 15 ans, il peut déjà commencer l'apprentissage professionnel. Et donc, si l'apprentissage peut prendre 1 année, 2 ans, au finish, on pourrait même programmer une période de stage pour lui permettre autour de 17 ans, 18 ans, il peut déjà commencer une activité économique. Et donc, le montage du business plan terminé, c'est lui qui va nous déterminer qu'est-ce que l'enfant a réellement besoin en termes de coûts. Et dès que nous avons cette idée, maintenant on peut acheter le matériel ou les kits de réinsertion économique dont il a besoin. Et là, ça ne suffit pas. Dès qu'on lui remet les kits, il faudrait qu'il y ait également un suivi post-création. Donc voilà un peu globalement la réintégration économique.
Bon, est-ce que nous pouvons savoir qui étaient les participants à ce séminaire-là dont nous sommes en train de parler?
La première partie a été constituée principalement des agences d'exécution de l'UNICEF. Et donc au niveau de la province du Sud Kivu, il y a 5 agences, FIPIO, AVREO, BVS, FSH, il y a COPI aussi, donc ça fait 5 agences partenaires de l'UNICEF pour lesquelles nous avons renforcé les capacités. Et comme la spécificité du BIT, c'est la tripartite, et donc on a également associé en fait le partenaire social. Et quand nous parlons de partenaires sociaux, on voit là-bas le représentant du gouvernement, le représentant des employeurs, mais aussi le représentant des travailleurs.
Après cet atelier, allez-vous concevoir un un projet concret et mettre ce projet en œuvre?
Le projet existe déjà. Nous avons déjà un plan d'action qui a été conçu par la tripartite, c'est-à-dire UNICEF, BIT et le guichet d'économie locale du Sud Kivu. Donc pour l'instant, nous sommes en train de passer à la mise en œuvre de ce plan d'action. Et cet atelier était juste parmi les premières activités prévues dans ce plan d'action. Et donc après pratiquement cet atelier, il y aura d'autres formations qu'on va encore organiser pour capaciter davantage les agences d'exécution de l'UNICEF, mais aussi la tripartite. Et après, il y a toute une période de suivi. Et les suivis, c'est une activité à part entière qui devra être organisée par le guichet d'économie locale du Sud Kivu. Et donc, nous avons capacité les agences d'exécution. Cette capacitation va encore se poursuivre. Il y a toute une formation qui est également préparée avec le programme GERME, qui est également un programme du BIT. GERME signifie tout simplement gérer mieux votre entreprise. Et donc, on va encore donner cette formation au niveau de la province pour que les agences d'exécution de l'UNICEF soient vraiment à la hauteur, puisque c'est des professionnels en ce qui concerne la réinsertion sociale. C'est des professionnels qui sont ici. Et c'est un projet qui prend en compte trois provinces de la RDC. C'est-à-dire, nous avons le Sud Kivu, nous avons le Nord Kivu et nous avons la province orientale.
Chef Franck Mayundo, encore une fois merci.
Merci beaucoup, madame.
Les nouvelles en bref au Sud Kivu d'abord, où 8 Rwandais dont un ex-combattant FDLR et 7 dépendants ont été rapatriés en début de semaine à partir du territoire de Mwenga dans la même province. La section DDRRR de la MONUSCO Bukavu s'est chargée de leur retour. Ces sujets rwandais sont venus, selon la source, de Kisuza en territoire de Mwenga ainsi que d'Ufuamando à Masisi dans le Nord Kivu. Et puis le programme national de nutrition a organisé à Kinshasa du 28 au 29 septembre 2012 un atelier sur le système de surveillance nutritionnelle et d'alerte précoce SNSAP qui vise la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo, cela avec l'appui notamment de l'UNICEF. Par ailleurs, une vingtaine d'experts des pays du bassin du Congo ont bénéficié cette semaine pendant 5 jours à Kinshasa d'une formation sur les bonnes pratiques du diagnostic et de surveillance des maladies animales. La FAO qui a organisé cette formation a fait venir des experts de la RDC, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, du Gabon, du Cameroun ainsi que de la Guinée équatoriale. Parlons enfin culture, l'UNESCO vient de lancer son ouvrage « L'enquête par hypothèse ». Il s'agit, d'après les sources de cette organisation des Nations Unies, d'un ouvrage de référence mondiale du journalisme d'investigation qui a déjà été adopté par de nombreux programmes journalistiques dans les pays arabes, en Asie, aux États-Unis et en Russie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche répond au nom de Scott Campbell. Il est directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Scott Campbell, bonjour.
Bonjour.
La Commission politique, administrative et juridique ainsi que la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale examinent depuis vendredi 21 septembre dernier la proposition de loi portant création d'une Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Quel sera, selon vous, le rôle d'une telle institution dans un pays où il en existe déjà beaucoup d'autres qui s'occupent des droits de l'homme?
Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres institutions de droits de l'homme en RDC, mais les institutions nationales de droits de l'homme sont de caractère vraiment unique et sont différentes par rapport aux ONG de droits de l'homme ou bien des institutions de droits de l'homme. Tout d'abord, une commission nationale de droits de l'homme est ce que nous appelons de manière générique les institutions nationales de droits de l'homme ou bien les INDH. Et chaque pays donne le nom qui lui plaît à son institution. Ces institutions font partie intégrante de l'appareil de l'État. Et elles sont financées aussi par les fonds publics, chose que souvent on ignore. Ces institutions, au moins celles qui satisfont aux standards internationaux, et de plus en plus souvent, elles servent de mécanisme relais entre les normes internationales des droits de l'homme et l'État. Alors, je disais qu'elles sont vraiment de caractère unique et différent par rapport aux ONG ou bien aux autres mécanismes de l'État pour protéger ou promouvoir les droits de l'homme. Eh bien, il faut noter que leurs membres ne sont pas élus, bien qu'ils puissent être nommés par des représentants élus par le peuple. Les différences, je dirais, entre les ONG et les INDH sont peut-être les plus prononcées pour ce qui est de l'instruction de plaintes. Et là, les institutions nationales de droits de l'homme ont vocation de neutralité dans la recherche des faits et non pas de plaidoyer en faveur d'une partie ou bien de l'autre.
À vous entendre, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme soutient cette initiative du Parlement. Qu'est-ce qui justifie un tel soutien et en quoi consiste votre appui précisément?
Bon, pour nous tout d'abord, la création d'une telle institution est fondamentale pour la protection, la promotion des droits de l'homme en RDC. Okay. La création d'une telle institution, pour nous, ça reflète l'intérêt du gouvernement de donner la priorité au respect des droits humains de son peuple. Donc pour nous, c'est une signe très très forte en termes de la volonté du gouvernement de faire respecter les droits humains. C'est le soutien que nous apportons, il est essentiellement technique. Nous assurons ou nous essayons de fournir la documentation, des conseils, de l'expertise, etc., selon les requêtes de la société civile qui est très impliquée, ou bien des parlementaires ou des membres du gouvernement, pour assurer que l'institution que nous espérons sera créée soit indépendante, crédible et efficace, et donc qui répond aux principes internationaux.
Vous faites des formations pour cela?
Pas des formations proprement dit, je dirais plutôt, mais on a appuyé plusieurs sessions techniques, des ateliers aussi, en fait depuis plusieurs années. Comme vous le savez, il y a eu au niveau du Sénat une ébauche de loi qui était adoptée en 2008. Et donc, bien avant 2008, nous étions impliqués avec les sénateurs et surtout avec la société civile pour partager les principes internationaux et aussi l'expérience internationale. Et avec les ONG et les parlementaires, nous avons partagé les lois qui viennent de différents pays et on a fait venir des anciens membres des commissions des autres pays, pour qu'ils partagent leur expérience avec les parlementaires, les membres du gouvernement et avec la société civile.
Ok, si je n'abuse, vous vous lancez aussi dans une campagne de plaidoyer et de sensibilisation pour la concrétisation de cette proposition de loi. Comment et auprès de qui cette campagne est menée?
Bon, on ne mène pas une campagne proprement dit. Notre rôle est plutôt technique. Étant les Nations Unies, nous avons un rôle d'appuyer la création de cette institution. Nous avons une équipe au siège de l'Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, l'HCDH, une équipe qui ne fait qu'un travail sur la création et le renforcement des commissions nationales des droits de l'homme. Donc pour nous, c'est plutôt le partage d'informations, le partage d'expériences, les conseils, et même donner les avis juridiques sur les commissions, les ébauches-lois pour créer des commissions, ou un appui technique aux commissions une fois qu'elles soient créées. Nous aussi, nous donnons souvent un appui technique aux commissionnaires, souvent dans les premiers mois ou les premières années de la création d'une commission. On nous fait appel pour l'établissement concret d'une telle commission. Donc, on ne fait pas une campagne. Mais nous estimons que c'est essentiel qu'un public très large prenne connaissance de l'importance de la création de cette commission qui pourrait jouer un rôle très très important dans l'avenir pour la protection et la promotion des droits humains en RDC.
Et ce partage d'informations va s'étendre sur quelle période et avec qui vous faites ce partage exactement?
Bon, aujourd'hui, on fait ce partage avec les parlementaires. Il y a deux commissions parlementaires qui sont en train de travailler sur les bons choix. Donc avec ces commissions et dans un sens plus large avec tous les parlementaires et bien sûr avec les différentes organisations de la société civile. Et c'est, je pense, à travers la société civile aussi qu'on a l'occasion de faire une large diffusion de l'information. Et il y a plusieurs ONG nationales et même internationales qui sont impliquées dans cette EV, si vous voulez, mais pour que le public, sens large, prenne connaissance et qu'il sollicite et ils appellent, ils parlent avec leurs représentants au Parlement pour insister sur l'importance de la création de cette commission, mais pas seulement de la création de cette commission, mais la création d'une commission qui est indépendante, qui est crédible, qui peut faire face aux défis multiples en ce qui concerne les droits humains en RDC aujourd'hui.
Et ça sera pendant combien de temps?
Bon, jusqu'à la promulgation de la loi, bien sûr, mais aujourd'hui on est dans une phase cruciale, je pense, car la loi, les Bosch lois pour créer la Commission nationale des droits de l'homme se trouve sur l'agenda de cette session parlementaire.
Scott Campbell, je rappelle que vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Et c'est maintenant la nouvelle de province qui nous emmène au Maniema. Deux organismes onusiens, la FAO et le PNUD, ont organisé mercredi à Kindu une journée d'études en rapport avec un projet conjoint. Nous sommes en contact avec Rigobert Yumandouani pour en savoir plus. Bonjour Rigobert.
Bonjour Mireille.
Dites-nous exactement de quel projet s'agit-il et sur quoi a porté la réflexion organisée par la FAO et le PNUD.
Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette activité a été celui de faire le suivi des activités du projet conjoint intitulé « Projet de relèvement et de relance économique dans la province du Maniema ». Ceci à travers l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Concrètement, il s'est agi de renforcer les capacités des opérateurs dans ce secteur. Cette réflexion organisée par PNUD et la FAO se veut de contribuer à la création des emplois en vue de la réintégration durable de personnes déplacées, retournées et autres vulnérables dans leur communauté d'origine.
Et ce projet concerne exactement quelle partie de la province?
Ce projet concerne 4 territoires sur les 7 que compte la province. Il s'agit des territoires de Kailo, Kasongo, Kibombo et Pangi. Toujours selon la même source, avec ce projet, on va contribuer à la stabilisation de ces territoires par le renforcement des services étatiques et techniques à la relance de la production agricole.
Rigobert, qui ont pris part à cette journée d'études?
Ce sont les inspecteurs provinciaux de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Il faut dire, Mireille, que ces renforcements, étant au niveau des connaissances, c'est-à-dire la matière et des nouvelles techniques, en matériel de travail. C'est ainsi que pour leur faciliter le déplacement à travers les 4 territoires ciblés, on leur a remis 5 motos de marque DT et 31 vélos de marque Kinga, tous pimpants neufs.
Merci Rigobert, à la prochaine.
À la prochaine Mireille.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Simplice Kondi, je suis le régional en charge des relations extérieures au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ici basé à Kinshasa, marié et je suis père de 2 enfants. Alors je suis au HCR depuis le 5 mai 2003. Avant le HCR, je travaillais dans un cabinet de communication. J'étais consultant, je formais des journalistes bien sûr, parce que je suis de formation de journaliste. J'ai fait un DSS en communication. Avant de faire le DSS en communication, j'ai fait un diplôme d'études approfondies en lettres modernes. Et donc, c'est en suivant cette voie-là, effectivement, que je me suis inscrit pour faire mon diplôme d'études spécialisées en communication. Bien avant d'arriver ici à Kinshasa, j'étais donc à Goma, où j'étais donc l'administrateur en charge de l'information publique. Je couvrais donc tout l'est du pays. Et maintenant ici, au niveau de Kinshasa, je suis toujours en charge de l'information et des relations extérieures. Donc je couvre maintenant l'ensemble du pays et bien sûr un certain nombre de pays qui sont donc à côté ici, qui rentrent dans le cadre de la couverture du bureau régional. Parce que sachez simplement qu'ici à Kinshasa, c'est le bureau régional du HCR. En tout cas, mes tâches quotidiennes, c'est effectivement rester collé à la situation des réfugiés, des déplacés, des personnes en fait qui sont sous le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. savoir donc de façon continuelle quelle est la situation dans laquelle ils vivent, de sorte à pouvoir les partager avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale, dire un peu quelle est la situation des déplacés, des réfugiés, des personnes apatrides, ou bien toutes les personnes qui relèvent de notre mandat auprès des populations, auprès aussi des médias et bien sûr auprès des bailleurs, parce qu'il faut effectivement montrer les conditions de travail, les conditions de vie, par exemple, de ces personnes-là. Et bien sûr, toute la tâche, tout le travail, n'est-ce pas, du HCR, qui a ses collègues sur le terrain, matin, midi et soir, qui s'échinent effectivement à trouver des solutions durables pour les personnes qui relèvent notre mandat. J'aime la musique ivoirienne, mais bon, comme vous le savez, je le dis toujours, le Congo nous a colonisés pendant des années, en tout cas aussi le plan de la musique, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, simplement parce que nous avons été nourris, nous avons été biberonnés, n'est-ce pas? Cette musique nous est un peu collée à la peau. Oui, j'aime bien sûr Franco, même si ce sont mes parents qui ont connu Franco, mais bon. J'aime aussi Koffi Olomide, la musique de Koffi Olomide, c'est la musique de notre génération, avec Papa Wemba, maintenant bien plus avec les Fally Ipupa, en tout cas, toute la musique congolaise, tant que c'est de la rumba, j'adore. Oui, j'aime bien Orpheline à Koffi Olomide. Ah ouais, je ne sais pas, mais bon, je n'ai plus la voix, disons, pour chanter, mais Orpheline, on entendait souvent. Je ne sais pas comment ça commence. Oumina Tunga Tunga, Andimande no Pati, Andimande no Tati Pise. Un truc comme ça, voilà, dans les styles. Bien sûr, il faut toujours faire des projections, comme on le dit, il n'y a pas de situation définitivement acquise. Donc, je vois l'après-HCR, d'abord un premier moment de repos, comme vous le constatez, nous bougeons beaucoup. Des fois, la famille est en reste malheureusement. Donc j'imagine mon après-HCR, une vie tranquille avec mes enfants, les voir en tout cas grandir si Dieu me donne jusque-là le temps de vivre et de les voir véritablement évoluer, de leur donner des conseils. Si j'ai beaucoup de force encore, je pourrai toujours apporter mon appui auprès des plus jeunes en termes de conseils, en termes de coaching. Comme vous le savez, la communication est toujours éternelle.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Roger Marley Nukunga. J'ai une question adressée à UNOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Cette agence a évalué à 14,3 milliards de dollars américains les achats effectués par l'ensemble du système onusien en 2011. Quels sont les produits ou les services les plus importants achetés? Une sous-question aussi, les achats d'armes sont-ils aussi inclus dans ces statistiques?
Roger Marley, merci pour la question. Madame Dorothée Klett, chargée de communication pour l'UNOPS, qui est en ligne avec nous, vous répond.
Oui, alors il faut d'abord préciser que le rapport statistique concerne les activités d'achat de l'ONU dans le monde entier pour l'année 2011. Il est élaboré par l'UNOPS à la demande du système des Nations Unies. Alors l'étude montre que les achats de services représentent 50,5% et les achats de biens 49,5%. Les sommes les plus importantes ont été consacrées à la nourriture, aux médicaments, au transport et à la construction de bâtiments tels que les écoles ou les hôpitaux. Donc, les trois premiers pays fournisseurs qui totalisent 20% des achats sont les États-Unis, la Suisse et l'Inde. Il est à noter que parmi les 10 plus gros fournisseurs, nous retrouvons l'Afghanistan, l'Inde et la Fédération de Russie, qui sont trois des pays en voie de développement. Alors, à titre d'exemple, les achats provenant d'Afghanistan touchaient essentiellement aux activités de construction, au transport et aux services de lutte anti-mine, mis en œuvre par le PNUD et l'UNOPS avec des entrepreneurs nationaux. Les achats provenant d'Inde comprenaient des vaccins, des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux achetés principalement par l'UNICEF. Alors, les cinq plus gros acheteurs étaient par ordre décroissant la division des achats des Nations Unies, le PNUD, le PAM, l'UNICEF et l'UNOPS. Vous pouvez trouver aussi la version intégrale du rapport sur Internet, sur le site soit de l'UNOPS, www.unops.org, ou alors sur le site du portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies, www.ungm.org.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Tous à vos agendas pour noter deux dates pour trois événements. D'abord, le 1er octobre, les Nations Unies célèbrent d'une part la Journée mondiale de l'allaitement maternel et d'autre part la Journée mondiale de l'habitat. La deuxième date à retenir, c'est le 5 octobre, date consacrée à la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Voilà tout. Eh bien, je l'ai dit, c'est par ici que s'achève ce magazine. Au micro, vous avez sûrement reconnu la voix de Mireille Bukasa Mukendi, qui vous l'a présentée grâce au concours de Ben Kabamba, Honoré Missenga et bien d'autres reporters de Radio Kapi. Merci de rester branchés sur Radio Kapi pour réécouter cette émission ce dimanche même à 19h03, heure de Kinshasa, mais aussi sur notre site internet www.radiokapi.net.